Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà l'atelier numérique au CES de Las Vegas pour cette édition 2016. La Poste est présente à ce CES et on va en parler avec mon invité, c'est Nathalie Collin qui est la directrice générale adjointe de La Poste. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors La Poste à Las Vegas, au début on se dit pourquoi, et en fait quand on visite votre centre on comprend tout de suite très vite, il y a des start-up, il y a de l'innovation, vous présentez beaucoup d'applications de réalité augmentée, de réalité virtuelle. La Poste est en train de se transformer, Nathalie Collin.
Alors La Poste à Las Vegas, c'était déjà vrai en 2015, puisque La Poste est venue présenter le hub numérique à Las Vegas en 2015. Et pour revenir en 2016, on s'est mis à un challenge qui est de revenir avec des preuves. Parce qu'à la fois à La Poste, on pense que le discours qui vaut le plus, c'est le discours des preuves. Donc nous sommes venus ici avec 4 partenaires qui ont posé leur service sur le hub numérique de La Poste. Donc Legrand, Malakoff Médéric, BNP Real Estate et Atoll. Avec des cas d'usage, bien évidemment. Et puis avec des start-up, on a monté le French IoT, ce qu'on appelle l'équipe de France des start-up. On utilise évidemment notre capacité et notre présence territoriale, qui est extrêmement forte, pour sélectionner 100 start-up que nous accompagnons sur le hub numérique pendant une année, et 15 start-up qui ont eu la chance de venir avec nous sur le stand, de poser leurs services sur le hub numérique et de travailler avec nos partenaires. On vient aussi avec des facteurs, c'est pas seulement La Poste qui est à Las Vegas. Les facteurs sont venus à Las Vegas pour faire une démonstration live du hub numérique et du premier bouton connecté de La Poste dont on va parler en live sur un réseau qui est aujourd'hui un réseau Sigfox, mais on sera sur tous les types de connectivité. Donc c'est une démonstration en réel.
Qu'est-ce que c'est que ce hub numérique? Vous nous en parlez depuis tout à l'heure, mais il faut peut-être rentrer dans les détails. Vous voulez devenir une espèce de passerelle de tous les objets connectés qu'on peut avoir à la maison, tout en étant un tiers de confiance aussi, c'est ça?
C'est le métier de La Poste depuis 5 siècles. On est un opérateur universel des échanges. Aujourd'hui, la question à se poser, c'est dans le monde numérique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement de travailler avec les valeurs de La Poste qui sont l'universalité, la neutralité, la pérennité, mais aussi la proximité, et de proposer, et on est les seuls à pouvoir le faire en vérité, une plateforme qui permette à l'individu de reprendre la main sur sa vie numérique. C'est une plateforme qui permet, avec tous les types de connectivité, de connecter tous les types d'objets et de permettre à l'individu de créer ses propres scénarios. C'est-à-dire, c'est la personnalisation à très très grande échelle des services que peuvent rendre les objets connectés. Ce qui nous intéresse dans les objets connectés, c'est de passer d'un Internet finalement immatériel à un vrai Internet de services et de proximité. Et ça, c'est le rôle de La Poste.
Mais vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Microsoft, Google, Apple veulent véritablement accaparer notre vie privée, etc. Est-ce que vous avez les moyens de vous battre contre eux? Et comment... En fait, arriver à convaincre les utilisateurs, à venir chez vous plutôt que chez Google.
Alors, il y aura toujours plusieurs visions du monde. Notre vision du monde, c'est pas de capter les données des utilisateurs. Au contraire, c'est de redonner la main aux...
Ce n'est pas forcément le cas de Google.
Je vous laisse le dire vous-même. Et notre vision du monde à nous, c'est de redonner la main aux individus sur leur vie numérique et sur leurs données. Tout ça est relié au coffre numérique de La Poste et à l'identité numérique de La Poste. Le coffre numérique de La Poste, on n'a, par condition générale, pas le droit d'aller voir les données. Donc c'est l'inverse. Nous, on voudrait être payés pour pas utiliser les données.
Mais payés comment, justement ?
Alors c'est vrai que c'est compliqué de trouver un modèle économique. D'abord, on a un rôle d'opérateur et d'infrastructure. Donc on pense que c'est notre rôle à nous de faire cette infrastructure qui derrière permettra de développer des services, y compris des services postaux. Donc on a un premier bénéfice par rapport à ça. Et puis, on voit bien que ce modèle, il est biface. Il est à la fois vers le tout-ci, et vers le tout-ci, on sait bien que c'est extrêmement compliqué de faire payer, mais ça permet d'acquérir ce qu'on appelle la multitude. Et puis aussi d'avoir des options particulières. La Poste est par exemple probablement la seule à pouvoir numériser le stock à très grande échelle avec ses facteurs. Ça, c'est un service qui ne peut être que payant parce que ça nous coûte de l'argent. Mais il y a la partie to be, et c'est ce qu'on travaille aujourd'hui avec les partenaires qui sont là sur le stand. C'est comment finalement donner accès au to be à la multitude. Prenons un exemple très simple, vous voulez dématérialiser vos bulletins de paye, c'est le travail de DocaPost aujourd'hui. C'est très facile de le faire, y compris en utilisant le hub numérique et les coffres numériques de La Poste, parce que les gens y sont. Aujourd'hui, ce n'est pas complètement du virtuel, il y a 1,5 million de personnes qui utilisent le coffre numérique de La Poste.
Mais si par exemple, moi en particulier, je veux par exemple mettre toutes mes données numériques, mes photos, ma musique, etc. sur votre plateforme, je peux le faire. Ça va me coûter de l'argent ou est-ce que vous allez trouver un modèle économique où finalement ça ne coûtera rien pour l'utilisateur ?
Comme on est la Poste et qu'on veut rendre un service universel à tous les Français, la version de base de cette offre-là va être gratuite. Parce qu'on veut avoir tous les Français qui utilisent ce service-là. Après, si vous voulez avoir des services complémentaires qui peuvent être utiliser vos données pour faire des démarches, qui peuvent être garder vos données 250 ans ou je ne sais pas, là, on aura des options.
Ce qui est intéressant aussi et rassurant, c'est que la Poste, vous disiez, il y a 5 siècles. Donc, on peut imaginer que la pérennité de nos données est garantie, alors qu'on ne sait pas trop finalement... avec les géants du net, ils sont assez jeunes. On ne sait pas ce qu'ils deviendront dans 10-20 ans. Là, on sait qu'avec vous, finalement, on sait que ces données, vous les aurez toujours pour nous.
Oui, et au-delà de leur pérennité, il y a leur pérennité de leur service. On voit bien que les géants du net ont une capacité assez forte à arrêter des offres de façon unilatérale avec des conditions générales d'utilisation qui sont faites en Californie et qui sont pas attaquables dans les tribunaux français. Par ailleurs, il y a eu un magnifique coffre qui s'est ouvert il y a quelques années qui s'appelait « Forever Safe ». Et qui a fait faillite au bout de 18 mois avec toutes les données des utilisateurs. Donc la pérennité, c'est une valeur très forte et très consubstantielle de la Poste.
Alors la nouveauté aussi que vous avez annoncée ici, donc au CES de Las Vegas, c'est un objet connecté. Alors on se pose la question, à quoi peut servir un objet connecté à la Poste ? Il s'agit du domino, on l'a là, hein, sur la table. C'est on dirait une grosse clé USB, toute jaune, aux couleurs de la Poste. Ça sert à quoi ce domino ?
L'idée, c'était d'aller plus loin. D'abord, la Poste a vraiment entamé sa révolution numérique. Tous nos facteurs aujourd'hui, ils sont 90 000, sont connectés avec un smartphone. Ça a l'air facile, mais ce n'est pas si évident que ça à faire.
Ça leur sert à quoi, tiens, au quotidien ?
Ça leur sert à recevoir des instructions pendant leur tournée, ça leur sert à manager leur tournée, ça leur sert à savoir si, par exemple, un client a demandé l'enlèvement de son colis à domicile, il l'a sur son smartphone. Ça sert aux superviseurs à aller voir comment sont passées les tournées, quelles sont comment ça fonctionne, etc. Mais donc aujourd'hui, nos facteurs sont connectés. On l'a déjà développé, on l'a lancé au dernier trimestre à grande échelle, puisque 75% des Français sont concernés, il faut avoir une boîte aux lettres normalisée. L'envoi de colis depuis son domicile et son compte La Poste ou le retour de colis avec les e-commerçants depuis son domicile. Et finalement, le domino de La Poste, c'est l'étape d'après. C'est comment on rend l'expérience très, très simple pour l'utilisateur. Alors, il n'y a pas plus simple. Vous avez un domino, vous le clipsez puisqu'il est aimanté dans votre boîte aux lettres. Vous appuyez dessus, vous validez l'adresse à laquelle vous voulez l'envoyer sur votre compte La Poste et le lendemain matin, le facteur le prend, le met dans un emballage, met l'étiquette et l'envoie. Et ça, ça va être testé en live au premier semestre. On fait en général sur des agglomérations ou sur des zones de test avec des vrais clients, des vrais colis. Et puis, on le déploiera comme on a fait pour l'expédition à boîte aux lettres et qu'on sera prêt.
Si j'ai bien compris, j'ai acheté une paire de chaussures. Manque de bol, c'est pas la bonne pointure. Je remets ma boîte sans un emballage, on va dire, traditionnel. Hein. Simplement la boîte de chaussures dans ma boîte aux lettres. J'appuie sur le bouton, je sélectionne le service auquel j'ai acheté cette boîte. Et automatiquement, le facteur va venir chercher le lendemain mes chaussures et va les réexpédier, c'est ça. Donc ça nous fait gagner du temps aussi.
Absolument. Et il y a une autre possibilité, c'est que vous le fassiez directement par le service retour de votre e-commerçant, où là, c'est lui qui paye l'affranchissement et vous collez simplement l'étiquette qui vous a mise. Mais le domino, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme toujours à la Poste, quelque chose d'universel et d'évolutif. En premier lieu, on le fait sur le colis. Derrière, ça va porter les services des facteurs. Donc déclenché, alors il viendra à l'intérieur du domicile et il sera blanc, toujours avec l'oiseau postal mais blanc, déclenché par exemple une action de SAV, déclenché une offre qu'on va sortir au deuxième semestre qui est veillée sur mes proches, qui sera une plateforme d'assistance pour les personnes qui ont besoin d'assistance à leur domicile et sur lesquelles on greffera des capacités d'avoir des visites facteurs régulières pour que les personnes soient... Je vous rappelle que pendant la canicule, il nous a été demandé de faire boire les personnes âgées. Le lendemain, les facteurs faisaient boire toutes les personnes âgées en France. Donc c'est assez puissant. Et puis, on va travailler là-dessus avec nos partenaires pour déclencher aussi des actions pour nos partenaires selon leurs différents besoins de services.
Le métier du facteur va changer donc ?
Le métier du facteur est toujours en évolution et les facteurs ont beaucoup d'appétence pour construire avec nous leur métier de demain. Ils sont tous équipés d'un smartphone, ils l'ont tous très bien accepté. Alors vous trouverez toujours des exceptions, mais globalement le déploiement du smartphone est fait. Et donc c'est une façon pour le facteur de réinventer son rôle, qui est un très très joli rôle, puisque c'est la dernière grande force de proximité en France et d'assistance aux personnes.
Alors vous êtes venu avec beaucoup de start-up ici au CES de Las Vegas. Pourquoi les avoir fait venir ? Est-ce que c'est pour vous aussi peut-être une espèce de vivier pour détecter les talents de demain que vous pourriez intégrer dans vos services, c'est ça ?
Notre idée, c'est de développer le hub et de montrer qu'il est universel. Pour faire cela, il faut y mettre le plus de services possible. Les services, ils viennent des grands groupes. On va développer les partenariats avec les grands groupes. Et puis, ils viennent beaucoup des start-up. En plus, ça les aide beaucoup parce que ça leur permet finalement d'avoir accès à une plateforme gratuitement, puisque les start-up qui sont avec nous ici ont accès à la plateforme gratuitement, de poser leurs services, de trouver des clients. Et donc, ça les accompagne dans leur développement.
Vous les financez pour certaines ?
Aujourd'hui, on ne les finance pas. On les finance plutôt par une offre de service. C'est-à-dire,
vous les accompagnez ?
On les accompagne, absolument.
Alors, demain, vous pourriez en financer quelques-unes ?
Demain, on pourrait en financer. Ça peut être notre vocation dans des secteurs qui sont proches des nôtres. On le fait aussi par notre fonds d'amorçage Starting Post. Et puis, on les accompagne dans une procédure d'open innovation dans le cadre du Lab Postal qui aura d'ailleurs lieu au retour de Las Vegas en février.
Alors, il y a un exemple amusant. Vous avez fait venir des étudiants. Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous avez fait venir des facteurs, mais aussi des étudiants que vous avez challengés pour sortir en fait un objet connecté étonnant, c'est ça ?
Alors, on aime bien être challengé parce que les jeunes ont toujours des idées qu'on n'a pas eues. Alors là, effectivement, on a été bien servis. On leur a dit travailler, c'est la Web School Factory. Travailler et trouver un objet très innovant dans le domaine des objets connectés. Et puis, on va le présenter ensemble. Et ils ont trouvé un objet formidable qui permet de déconnecter tous les objets connectés. On ne l'aurait pas trouvé nous-mêmes, je peux vous dire.
C'est étonnant parce que je les ai interviewés. Ils font ça parce que c'est un vrai besoin pour eux de se retrouver à un moment obligé de déconnecter. Alors imaginez une petite boîte, à l'heure du dîner par exemple, vous vous retrouvez tous en famille, vous rentrez votre smartphone dans cette boîte-là, ça va couper le réseau en fait, et vous ne pourrez plus vous en servir, mais en même temps ça rechargera le téléphone. Voilà, c'est des idées comme ça qui vous plaisent, mais quel est le rapport avec la Poste finalement là ?
Le rapport avec la Poste, c'est de continuer à développer des offres et de continuer à être au service de nos clients. Et ça, c'est un service pour nos clients. Alors, je suis aussi venue avec un autre étudiant qui est l'étudiant de Télécom Bretagne, parce que je suis marraine de la promotion cette année. Donc, ils travaillent aussi sur les objets connectés beaucoup à Télécom Bretagne et ils sont venus avec nous.
Très bien. Eh bien, bon séjour à Las Vegas. Nathalie Collin, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, rappelons-le, la directrice générale adjointe du groupe La Poste. Merci.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Et l'atelier numérique se poursuit sur BFM Business. Bien sûr, on est à Las Vegas et vous restez avec nous. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, merci d'être avec nous. C'est l'atelier numérique. Vous êtes sur BFM Business. Comme chaque week-end, vous le savez, on est ensemble pendant 2 heures pour toute l'actualité des nouvelles technologies. Un atelier un peu particulier puisque nous sommes au CES de Las Vegas. Et on va maintenant s'intéresser à un autre grand groupe présent ici à Las Vegas. Tout à l'heure, je vous parlais de La Poste. Nous avions avec nous Nathalie Collin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stéphane Quéré. Bonjour Stéphane Quéré.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'innovation chez Engie. L'innovation chez Engie, qui est un mot qui prend de plus en plus d'ampleur dans cette grande boîte qui est Engie. Vous êtes ici à Las Vegas, alors pourquoi une grande société qui fait de l'énergie, qui travaille dans l'énergie est présente ici cette année ?
Vous savez, nous sommes donc au cœur du monde de l'énergie et le monde de l'énergie est en pleine transformation. On parle de transition énergétique en France. Partout dans le monde, le business se transforme. On passe d'un monde centralisé à un monde où chacun, que ce soit une entreprise, une collectivité ou un individu, veut non seulement maîtriser sa consommation d'énergie, mais maîtriser également la façon dont elle est produite et la taille à laquelle elle est produite pour pouvoir justement la maîtriser au mieux. Donc, compte tenu de tous ces paramètres qui sont en changement totalement accéléré, eh bien, l'innovation, c'est un des vecteurs de cette transition. Et l'innovation chez nous, ça passe par deux grands flux, de grandes sources. Ce sont des collaborateurs d'Engie que nous incitons à avoir des idées de nouveaux métiers, de nouvelles activités, des idées que nous incubons dans des partenaires, dans des incubateurs externes. Et puis, bien entendu, les écosystèmes autour d'Engie, les écosystèmes de start-up, de fonds d'investissement et d'entrepreneurs.
Alors, on va commencer justement par cette initiative concernant vos ingénieurs. Vous en avez combien chez Engie ?
Alors, nous avons 150 000 salariés chez Engie. Et il y a à peu près un an et demi, nous avons lancé une initiative pour que chacun, quel qu'il soit chez Engie, puisse proposer des idées de nouvelles activités ou de nouveaux business. Pour ce faire, nous avons créé un réseau social interne, qu'on a appelé Innovate Engie, et qui très vite a eu un certain engouement, puisqu'on a près de 10 000 collaborateurs qui se sont pris au jeu, qui ont voulu y participer, et qui nous proposent chaque jour des idées de nouveaux business, puisque ça fait à peu près un an et on a à peu près 360 idées qui ont été proposées.
Donc, je suis ingénieur chez Engie, je propose l'idée, vous l'analysez, hein, vous imaginez un petit peu à quoi elle pourrait ressembler dans la vraie vie, en quelque sorte. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Cet ingénieur peut mener à bien son projet ?
Absolument. Alors, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qu'un ingénieur. Hein. N'importe quel salarié.
N'importe qui.
N'importe quel salarié peut le faire. Il peut être comptable, il peut être peu importe, le tout c'est qu'il ait une bonne idée. Alors derrière, en effet, il y a un processus de sélection avec l'équipe innovation, avec les entités opérationnelles qui pourraient être avoir envie de commercialiser ce nouveau produit ou cette nouvelle activité. Et si toutes les planètes s'alignent, nous rentrons dans ce qu'on appelle un processus d'incubation. Et donc, le porteur de l'idée se transforme en une équipe. Hein, on lui adjoint un certain nombre de personnes. On parle d'équipe de 2 à 5 personnes. Et cette équipe, elle va vivre une vie de start-up dans un incubateur professionnel, plutôt à côté de là où il travaille. Et pendant 1 an, à plein temps, cette équipe va développer un nouveau business. Ça veut dire générer du chiffre d'affaires en 1 an.
Au bout d'1 an, on fait le point, c'est ça?
Au bout de 3 mois, tous les 3 mois, on fait le point sur la progression de l'activité pour décider si on continue ou si on arrête.
Et donc après, le salarié de chez Engie, au bout d'1 an, a le choix. Soit il s'émancipe encore plus et crée en fait son business, soit il revient au poste où il était auparavant, c'est ça?
C'est presque ça. En fait, il doit décider de son statut au moment où il rentre dans l'incubation. Soit il reste en effet salarié, soit il crée sa boîte. Dans les deux cas, Engie finance la période d'incubation. Et puis, le salarié revient dans l'entreprise, auréolé de succès, quel que soit d'ailleurs le résultat de son projet, qu'il ait réussi ou qu'il n'ait pas abouti. Et puis, s'il décide de créer sa boîte, il crée sa boîte et Engie aura une part minoritaire dans la nouvelle start-up qui aura été créée.
Alors justement, on parle de start-up, on va maintenant s'intéresser au deuxième axe hein, de l'innovation chez Engie, c'est le fait d'investir dans des start-up, hein, plus ou moins grandes. Vous en êtes où aujourd'hui?
Alors nous avons créé le fonds Engie New Venture il y a un petit peu plus d'un an, en mai 2014. Ce fonds est doté de 100 millions d'euros et nous avons réalisé depuis 1 an et demi 7 opérations.
Alors, bon, on va peut-être pas toutes les citer. On va avoir un exemple bien concret dans un instant avec notre invité, mais typiquement, vous avez une nez creux concernant l'une d'entre elles qui est devenue une licorne, hein, qui aujourd'hui a une notoriété qui dépasse bien la France et l'Europe, hein, puisqu'elle s'installe même aux États-Unis. Il s'agit de Sigfox.
En effet, nous avons investi dans Sigfox au mois d'avril de l'année dernière.
Alors que personne ne les connaissait. Enfin, pas autant qu'aujourd'hui, en tout cas.
C'est vrai. Et ce qui est intéressant avec Sigfox, c'est que ça résume bien notre philosophie. C'est-à-dire que nous avons fait un investissement dans une entreprise qui nous semblait prometteuse. Et puis surtout, nous faisons du co-développement avec Sigfox. Puisque depuis que nous avons investi, nous avons fait un grand partenariat avec notre filiale Engie Cofeli sur les objets connectés dans le bâtiment intelligent. Et puis nous sommes constructeurs et opérateurs du réseau Sigfox en Belgique.
Alors justement, concrètement, donnez-moi un exemple de collaboration que vous pourriez avoir avec Sigfox. Dans le bâtiment connecté, ça pourrait servir à quoi?
Dans le bâtiment connecté, on a besoin d'énormément de capteurs pour mesurer la température, l'état de telle ou telle activité, puisque on a des activités qu'on appelle de facility management, c'est-à-dire que nous gérons l'ensemble du bâtiment. Donc il faut beaucoup de capteurs. Pour que ce soit intéressant, il faut que ces capteurs, on puisse en récupérer l'information de façon rapide, précise et peu coûteuse. Un réseau comme Sigfox est absolument l'idéal pour ça.
Très bien, un autre exemple peut-être de start-up avant d'évoquer justement celle qui est à vos côtés.
Par exemple, la dernière opération que nous avons faite, c'est une start-up qui est présente avec nous au CES à Las Vegas, qui s'appelle AMS, qui est une société américaine et qui fait du stockage de l'électricité. Une des grandes questions aujourd'hui sur l'électricité, l'électricité, elle est de plus en plus renouvelable, donc de plus en plus intermittente. Comment fait-on lorsqu'on a besoin d'électricité et qu'elle n'est pas en train de se produire? Ou comment fait-on dans des zones comme la Californie où on est en limite de rupture entre la capacité de production et les besoins?
Alors qu'il y a en plus beaucoup de soleil en Californie.
Absolument. Il faut stocker. Et pour ça, AMS a trouvé un business model en installant de grandes batteries Tesla dans de grands immeubles, dans des tours, dans des hôtels, dans des bâtiments industriels où on peut stocker l'énergie. On peut soit l'utiliser pour son propre compte, soit la revendre au réseau pour éviter les périodes de pointe de consommation qui peuvent mettre en danger le réseau.
Alors ça, c'est de l'énergie qu'on stocke qui vient, par exemple, de l'énergie solaire, des panneaux photovoltaïques, ou qui peut être même, on va dire, tiré du réseau traditionnel et être stocké?
Absolument. La question principale, c'est comment je fais lorsque je suis en pointe de consommation pour que le réseau tienne le coup. Et pour ce faire, il faut stocker l'énergie. Et ça, c'est un business model qui nous intéresse énormément.
Alors, on va maintenant évoquer une autre start-up. dont le fondateur est à nos côtés. Alors avant de l'interviewer, un mot quand même sur ce choix. Il s'agit donc de Partnering Robotics. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, puis après je donnerai la parole à notre invité, mais pourquoi avoir choisi cette société?
Comme je le disais tout à l'heure, nous avons une activité importante de gestion de bâtiments, et nous avons lancé il y a un petit peu plus d'un an un appel à projet à la recherche de solutions autour de ces questions-là. Notre filiale Engie Cofeli avait déjà repéré Partnering Robotics. Partnering Robotics a été lauréat de cet appel à projet avec une résidence chez Paris & Co. Et puis c'est comme ça que l'histoire a commencé. On a testé les robots, on les a implantés chez des clients, on a décidé de travailler ensemble et on a même décidé d'investir.
Ramesh Kossi, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes le fondateur de Partnering Robotics. Et on l'a vu, ce robot, il se balade dans les allées du centre juste à quelques dizaines de mètres sous nous. C'est un robot donc qui a une particularité, c'est qu'il va assurer le bien-être des employés, c'est ça ?
Tout à fait. Donc le nom du robot, c'est Diawan. C'est le premier robot neuro-inspiré. Ça veut dire qu'il est malin, il a de l'intelligence artificielle, il est capable d'évoluer tout seul dans des grands environnements, d'apprendre des tâches, d'interagir avec les personnels. Et donc, comme il fallait lui proposer des services, et le premier service que l'on a imaginé, c'est la détection des polluants de l'air et l'épuration de l'air. Donc il fait vraiment les deux à la fois, et c'est un service qui a été validé avec le CSTB, qui est le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
Parce que l'air qu'on respire dans les sociétés, elle est souvent polluée, Ramesh ?
Alors, on passe à plus de 85% de notre temps dans des environnements intérieurs clos, mal ventilés, qui sont bien sûr très souvent pollués. Ce sont des pollutions que l'on connaît. Par exemple, à Paris, il y a des pics de pollution particulière, les particules fines. Bon, je pense que tout le monde a entendu parler des particules fines.
Du au diesel, etc.
Tout à fait. Et puis, il y a d'autres choses comme l'ozone, ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. Bref, il y a plein comme ça de polluants dans l'air. Et je pense que maintenant, il y a une vraie prise de conscience parce qu'on a des études de l'Organisation mondiale de la santé ou d'organisations qui travaillent sur le bien-être des salariés qui se rendent compte que la qualité de l'air, c'est un vrai sujet.
À quoi ressemble ce robot ?
Alors, Dia, il fait à peu près, il a la taille d'un petit garçon, il fait à peu près un mètre. Il a un visage sympathique. Alors, c'est de la French Touch. Hein. On a fait un concours avec nos belles écoles de design françaises. Et on a retenu un modèle qui puisse facilement s'intégrer dans des environnements où les gens vivent, travaillent, sans faire peur. C'est un robot non humanoïde. Il a pas de bras, il a pas de jambes, mais voilà, il a un petit avatar, un petit écran avec un petit sourire. Voilà, il a un aspect sympathique.
Alors ça, c'est la première étape. On peut imaginer que ce robot qui détecte l'air pollué, etc., qui fait un petit peu attention à notre bien-être, pourrait aussi arriver un jour à la maison, enfin chez vous, chez moi.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on l'a positionné dans le bâtiment, c'est-à-dire le B2B avec ce premier service, et puis nos amis bien sûr d'Engie nous ont demandé de regarder du côté de l'efficacité énergétique. On l'a positionné d'ailleurs au COP21 avec le surnom du R2D2 du climat. Mais comme vous le dites à juste titre, on a ces mêmes problématiques dans les foyers, et donc on travaille actuellement sur une plateforme qui sera un peu plus compacte et qui pourra aller dans ce qu'on appelle le B2C, chez les gens, et performer d'autres services, parce que fondamentalement, Diawan, c'est pas qu'un produit, c'est une vraie plateforme ouverte sur laquelle on peut imaginer une quasi-infinité de services, de la surveillance, de la téléprésence, des services pour l'éducation, des jeux. Bref, on a tout un univers de services ouverts sur l'écosystème et notre partenaire Engie, bien sûr.
Merci beaucoup Ramesh Kossi, bravo pour ce robot qui en plus a une bonne tête, hein, on peut le voir sur YouTube, etc. Et merci aussi à Stéphane Quéré, donc qui est le patron de l'innovation chez Engie, merci à tous les deux. L'atelier numérique dans un instant, la suite, toujours depuis Las Vegas, donc vous restez avec nous, à tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
Avant de retrouver notre French Tech Tour, notre dossier de l'atelier US cette semaine, et on va parler de French Tech à San Francisco avec vous, Pauline Conteneur.
Xavier Vartel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le CEO du French Tech Hub à San Francisco, une structure qui aide les jeunes entreprises high-tech françaises à s'implanter aux États-Unis. Vous avez fait vos débuts dans un grand groupe pour ensuite lancer vos propres projets au nombre de 5, si je ne m'abuse. Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer plus en détail les activités du French Tech Hub à San Francisco ? Pour rappel, premier French Tech Hub international lancé en 2014. Et ensuite, si vous deviez dresser un bilan des deux années qui viennent de s'écouler, quel serait-il ?
Merci Pauline. Le French Tech Hub est une filiale de la région Île-de-France. Nous sommes un accélérateur de start-up françaises et PME françaises innovantes aux États-Unis. Nous sommes basés à San Francisco et à Boston. Et nous aidons nos clients sur trois types de services, sur les aspects business et marketing, sur la levée de fonds et sur les services administratifs. On a, pour un premier bilan, on a commencé en 2014, donc il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas encore 2 ans. On a un bilan qui est extrêmement positif. On a servi pas loin de 130 sociétés. Ces sociétés ont levé 80 millions de dollars. Et un autre point de mesure, on estime qu'elles ont créé entre 300 et 400 emplois en France en se développant aux États-Unis.
Dans quelle mesure est-il important pour l'entrepreneuriat français au sens large de jouir de cette présence, de cette maison des Français au cœur de la Silicon Valley ?
Eh bien, venir aux États-Unis, ça reste en fait une opération compliquée, c'est risqué, ça peut demander beaucoup d'argent. Et une des choses qu'on fait beaucoup, c'est en fait partager notre expérience. Alors nous-mêmes, moi-même, je suis un entrepreneur, comme tu le disais, et donc je partage les erreurs, les challenges que j'ai pu connaître aux États-Unis. Et en même temps, on a constitué un réseau de mentors qui sont en fait d'autres entrepreneurs qui sont prêts à aider des entrepreneurs français à venir aux États-Unis et à partager leurs expériences. Le deuxième point, c'est que venir aux États-Unis, ça demande des ressources, ça demande des connaissances, et on a identifié tout un nombre d'experts. Et donc, par exemple, on a des gens qui sont spécialisés par métier. Si une société cherche un expert dans le domaine de la sécurité, eh bien, on va faire gagner beaucoup de temps dans l'identification de ces experts aux entreprises françaises.
À quelles difficultés se heurtent le plus souvent les jeunes startups françaises qui arrivent aux États-Unis ?
Alors, il y a beaucoup de difficultés, hein. Je pourrais m'étendre là-dessus, mais je pense que une des premières qui me vient à l'esprit, c'est la compétition. Il y a beaucoup plus de concurrence ici par rapport à la France. Et donc, un des moyens de contrer cette compétition, en fait, c'est d'abord de revenir aux basiques et de bien comprendre, bien définir l'adéquation d'un produit par rapport à son marché, par rapport à ses clients. Et une fois qu'on a fait ça, on va travailler sur ce qu'on appelle une go-to-market stratégie, c'est-à-dire définir le plan de marché, de quelle façon le produit va pouvoir atteindre ses clients.
Et quelles seraient alors les clés pour les entreprises françaises qui souhaitent s'implanter ici pour se démarquer peut-être ?
Eh bien, comme je le disais, en fait, ce qui est important, c'est le produit. En fait, avec un bon produit qui satisfait un besoin, qui satisfait des problèmes de clients, on va pouvoir rentrer partout, on va pouvoir le vendre. Et donc, la question la plus importante, c'est bien de comprendre en fait si son produit va correspondre à des besoins de sociétés américaines ou des besoins de consommateurs américains.
Et alors, est-ce qu'il y a une patte ou une griffe française ?
Alors je crois que oui. De manière générale, les sociétés françaises ont une technologie qui est plus solide que les sociétés américaines. On va trouver, alors je vais penser à des sociétés par exemple de hardware, donc comme on a un de nos clients qui s'appelle Amplitude Systems, qui fait des lasers, qui est une très très bonne technologie. Et donc on va trouver en général dans les sociétés françaises qui peuvent être issues par exemple des spin-off de labos, des contenus technologiques qui sont très intéressants et qui peuvent être valorisés aux États-Unis.
Parmi les startups que vous avez accompagnées depuis 2014, avez-vous observé des tendances? Que ce soit par exemple beaucoup plus de startups qui se lancent dans le domaine de la mobilité.
Je pense que au niveau des tendances, on va retrouver en France les mêmes tendances que les startups américaines, hein, puisqu'elles suivent les mêmes marchés. Donc les grandes tendances, c'est par exemple le cloud computing. Là, il y a un énorme marché. C'est par exemple l'internet des objets. Là aussi, c'est en plein développement. Et ce que je vois aussi, c'est une autre tendance de fond, c'est les grandes sociétés, les corporates, que ce soit des corporates françaises ou des corporates américaines, qui elles aussi ont besoin d'innover, ont besoin de changer, et on voit une vraie tendance de fond où elles ont besoin des startups pour le faire, et de plus en plus des accords entre des startups et des corporates, de plus en plus des corporates accélérateurs qui permettent aux startups de travailler avec les corporates. Donc c'est une autre tendance que je vois de plus en plus entre les États-Unis et la France.
Très bien, merci beaucoup Xavier Vartel. Pour rappel, vous êtes CEO du French Tech Hub à San Francisco.
Merci Pauline. Et après Pauline, place à Aurore maintenant, Aurore Géo, pour notre French Tech Tour. Montpellier toujours en avance de phase en matière de Smart City, Aurore.
Alors pour le French Tech Tour de cette semaine, nous sommes encore au Smart City World Congress et on va pas voir Barcelone qui n'est pas French Tech, mais on va voir Montpellier. Et avec nous pour en discuter, Hélène Roussel, qui est donc chef de projet Cité Intelligente pour Montpellier. Bonjour.
Bonjour.
Et également Chantal Marion, qui est vice-présidente déléguée développement économique, enseignement supérieur et recherche innovation internationale artisanat pour Montpellier. Bonjour.
Bonjour.
Alors Montpellier, c'est depuis 2010 une véritable volonté de se présenter comme une ville intelligente. C'est des événements aussi, comme par exemple l'événement de la tribune Smart City. Montpellier Smart City, c'est quoi une Smart City?
Une Smart City, c'est une ville dite intelligente dans laquelle les citoyens doivent être à l'aise et surtout que les citoyens soient acteurs justement dans leur ville intelligente. C'est l'objectif principal.
Donc Montpellier précurseur aussi?
Montpellier précurseur parce qu'il a justement un écosystème qui correspond à la mise en place d'une Smart City. L'écosystème aussi bien par rapport aux citoyens, c'est-à-dire la ville, une des villes les plus jeunes, une ville très attractive où la démographie est très importante, une ville située au bord de la mer, également avec un fleuve dangereux, des rivières dangereuses avec des crues, une mobilité, des lignes de tramway, beaucoup d'étudiants, donc tous les facteurs qu'il fallait pour prévoir rapidement une Smart City. C'est vrai qu'on a été innovateurs là-dedans.
Vous venez de fêter les 1 an de votre labellisation French Tech. Qu'est-ce que ça représente?
Alors, c'était hier soir, hein, puisque en ce moment, à Montpellier, se déroule la semaine de Digital World Week. On a fêté ça l'année dernière. Ça représente une émulation terrible pour la métropole. Ça a attiré énormément d'entreprises. Ça a également ouvert à l'international, puisque hier nous avons signé 2 conventions French Tech, une avec Pékin, une avec Shanghai et l'autre avec Chengdu, et est en préparation suite au voyage à Austin avec les entreprises, une convention avec Austin.
Alors vous êtes partenaire sur 3 ans, d'après ce que j'ai vu, avec IBM, donc un acteur historique du développement de la Smart City. Pourquoi ce partenariat, sachant que d'autres villes parfois ne s'appuient uniquement sur les startups?
Alors là, évidemment, IBM est un partenaire. Pourquoi? À Montpellier, on a beaucoup de TPE, de PME, les grands groupes. On ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup. Hein. Alors, ça fait partie d'un des grands groupes présents. Nous avions un problème de stockage de données. Et IBM, pour nous, était incontournable.
On a travaillé dès 2010 avec IBM. On a réfléchi, on a grandi ensemble pour qu'on soit une ville intelligente. Et on s'est associé donc d'une part avec IBM parce qu'ils avaient aussi mené cette réflexion. Et puis, on a élargi le tour de table avec d'autres compétences, et notamment les startups. Donc, notre projet, c'est véritablement un projet collaboratif qui associe différents types de compétences, à la fois universitaires, PME, startups et grands groupes.
Concrètement, sur le terrain, les startups dont vous parlez, quel secteur se dégage? On voit que bientôt c'est la COP21. Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est la mobilité?
Ce qu'on a pu voir, notamment en 2015, on a collaboré dans le cadre du Challenge Big Data et l'appel à idées. Challenge Big Data, c'est une opération lancée par le ministère de l'économie. Différents types d'activités ont été proposées par les startups, que ce soit dans le domaine de la cohésion sociale, dans la mise en relation à travers un outil numérique, entre des personnes qui sont en mobilité réduite et des personnes qui peuvent les aider pour naviguer dans la ville. C'est également des activités dans le domaine de l'énergie, de la mobilité et de la logistique urbaine. Donc tous les champs de la gestion urbaine sont réunis et des startups sont présentes à Montpellier. Donc elles prennent appui sur la ville intelligente pour développer leur activité.
Montpellier, une zone de test du coup, puisque vous êtes précurseur?
C'est un laboratoire vivant, Montpellier. Il y a énormément de laboratoires de recherche à Montpellier, mais Montpellier elle-même, et la métropole, est un laboratoire vivant à elle seule, la Cité Lab.
Et la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va voir se développer dans votre programme Montpellier Smart City?
Alors, j'ai deux idées en tête. C'est évidemment développer, vu que Montpellier est une ville universitaire tournée vers la santé, élargir la santé par rapport à la ville intelligente. Et j'aimerais vraiment joindre dessus la culture également.
Merci beaucoup Hélène Roussel, donc je rappelle, qui est chef de projet Cité Intelligente, et Chantal Marion, qui est vice-présidente déléguée développement économique, enseignement supérieur et recherche, innovation internationale, artisanat pour Montpellier, Méditerranée, Métropole. C'était le French Tech Tour, Montpellier Smart City.
Aurore Géraud, merci. La fin de cet atelier numérique dans un instant sur BFM Business avec notre décryptage et puis le crash test d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique touche à sa fin dans un instant, le crash test avec Antoine Cyr, bien sûr, pour conclure cet atelier. Mais auparavant, notre décryptage avec vous, Lila Megrawa, et on va parler de la cartographie cette semaine.
Oui, François. Alors, pour ce tout premier alphabet du numérique de cette année, moi, je prends une bonne résolution, ou plutôt je détourne l'une de mes résolutions. J'ai tout simplement transformé l'alphabet du numérique en décryptage cette semaine. Alors, en tout début d'émission, on a fait le tour des tendances qu'on pressent exploser en 2016. Je vous ai un peu demandé une rallonge, François, que vous ne m'avez pas accordée en début d'émission. Je la prends en fin d'émission pour vous parler tout simplement d'une autre tendance qui est bel et bien en train d'exploser, à savoir les fintech. Alors, petit rappel de définition, l'expression fintech est une contraction de finance et technologie. Par fintech, on va désigner une start-up innovante qui va utiliser la technologie pour repenser les services bancaires et financiers, tout simplement. On peut retrouver un premier marqueur de ce boom fintech dans les chiffres. Alors, le nombre de fintech est assez difficile aujourd'hui à établir, mais je peux vous donner quelques chiffres. Rien qu'en Asie, on dénombre 2500 startups dans le secteur. Le monde anglo-saxon n'est pas en reste. Entre le Royaume-Uni et les États-Unis, ont été comptés, recensés 4000 à peu près startups. Bon, ce compte reste assez manuel, a été établi par Forbes. Forbes a recensé les startups ayant reçu un investissement. Parlons investissement, justement. Selon CB Insights, depuis 2010, 24 milliards auraient été investis dans les startups fintech. Une autre étude d'Accenture pointe qu'entre 2013 et 2014, la masse globale d'investissement aurait triplé. Le secteur fintech devenant le secteur à avoir la croissance la plus rapide du marché européen. Dans le détail, c'est le Royaume-Uni qui draine le plus de fonds devant la Scandinavie, les Pays-Bas et l'Allemagne. Quid de la France, me direz-vous? Alors en France, le mouvement est bel et bien en train de se structurer. Le pôle de compétitivité mondiale finance innovation qui a été créé en 2007 aurait attribué, selon Usine Digital, en 2015 100 labels fintech. On a un autre marqueur également, la création au printemps dernier de l'association France Fintech, dont on avait reçu l'un des fondateurs et aujourd'hui dirigeant, Alain Clos. Alors l'idée de France Fintech, c'est tout simplement à la fois, donc, comme je vous disais, de structurer ce mouvement français fintech, de fédérer les startups fintech et d'opérer un vrai travail de lobbying de cette touche fintech française auprès des pouvoirs publics, des investisseurs, mais également des acteurs historiques. Acteurs historiques, ce sera notre dernier marqueur. Un exemple notable et je pense marquant, BNP Paribas annonce lancer le tout premier accélérateur fintech et assurtech en France, qui sera opéré par vos serviteurs, l'équipe de l'atelier BNP Paribas. Donc, avis aux startups fintech, L'appel à candidature est ouvert jusqu'au 17 janvier prochain sur le site de l'atelier lab.atelier.net. Vous l'aurez compris, cette année, on parlera bel et bien dans l'atelier numérique de FinTech. Je vous donne rendez-vous pour un prochain décryptage. Et encore une fois, bonne année à tous.
Lila Megraoua, merci. Et place donc maintenant au crash test d'Antoine. Mon cher Antoine, le point de départ de ce crash test est quand même assez étonnant. C'est une sauce. C'est le gnoc mam.
Oui, c'est un point de départ culinaire parce que vous savez que le web...
C'est bien connu, pour Noël, on mange beaucoup de gnoc mam.
Voilà, ben, oui, si vous faites un Noël asiatique. Le web est quand même un véritable réservoir d'idées culinaires et aussi, il faut bien le dire, d'explications sur la manière dont les ingrédients sont fabriqués. Donc, par exemple, le gnoc mam, évidemment, il a sa page Wikipédia, tout seigneur, tout honneur.
Évidemment.
On nous apprend que le gnoc mam est une sauce à base de poisson fermenté dans une saumure et qu'il est connu sous les noms de fish sauce en anglais, de teuk trai en khmer ou de nam pla en thaï. J'espère que vous aimez mon accent de khmer qui doit être d'une fidélité absolument.
C'est magnifique.
Voilà,
c'est super.
Je m'en excuse par avance pour tous nos auditeurs qui sont franco-cambodgiens. Il y en a un certain nombre.
Oui.
Et donc, je pense
on les salue.
Que, voilà. Et on les salue et je pense que, voilà, je m'excuse de la façon dont je dis teuk trai parce que eux, évidemment, savent comment ça se dit.
Ça se dit. Voilà. Voilà.
Et donc, en thaïlandais, c'est nam pla. Donc, évidemment, ce gnoc mam, c'est un des principaux condiments qui est utilisé dans la cuisine asiatique, notamment vietnamienne, thaïlandaise, cambodgienne, laotienne. Mais alors, on va le voir tout à l'heure et on va aller sur les traces du garum. Figurez-vous qu'un condiment très semblable au gnoc mam, qui s'appelle le garum, était utilisé dans l'Antiquité classique et a disparu de la cuisine occidentale. Alors, le gnoc mam, comment est-il fait? Eh bien, il est fait par pressage et par filtrage d'une saumure, donc qui est un mélange de 15 kg de sel pour 100 kg d'anchois, qui va être macéré pendant 12 mois. 12 mois dans des jarres, dans des jarres au soleil ou dans des fûts
non,
en bois.
C'est pas voilà. Vrai.
Tout à fait. Donc.
Dit comme ça, c'est pas.
Alors. Non, mais
c'est
bon.
C'est un peu ragoûtant.
Voilà, ben, ça peut être un accompagnement à table. Pur ou avec du citron, de l'eau, du sirop de canne, de l'ail pilé ou des racines de gingembre fraîche, épluchées et hachées. Alors, sur le site de l'Express, on nous apprend que le gnoc mam, le meilleur gnoc mam, vient surtout de l'île de Phu Quoc, là aussi, pardonnez mon accent, située au sud-est du Vietnam, près des côtes cambodgiennes, qui produit 8 millions de litres par an du gnoc mam le plus réputé du monde, qui est fabriqué à base d'une seule espèce d'anchois, le Coelia macrognathos, qui veut dire grenadier à longue mâchoire, qui mesure jusqu'à 26 cm de long, quand même l'anchois.
Ah oui, c'est
quand même de l'anchois de choix.
Oui.
Et donc, cette saumure.
C'est de l'anchois de choix, s'il vous plaît.
Cette saumure est évidemment produite dans d'autres pays voisin. Mais donc, l'île de Phu Quoc, c'est vraiment
le top.
C'est le top. Voilà. Le top du gnoc, c'est à Phu Quoc.
Ça y est, vous avez trouvé leur slogan pub.
Exactement. Alors, figurez-vous, je vous disais tout à l'heure que le gnoc mam était en fait un cousin d'un ingrédient qui était utilisé par les Romains et qui s'appelait le garum. Et il y a eu effectivement dans Sleth, il y a 2 ans, hein, c'est pas tout récent, un article qui nous racontait que des chercheurs de l'université de Cadix avaient essayé de recréer le garum, parce que si le gnoc mam a traversé les années, le garum des Romains, lui, avait été oublié. Mmh. Et donc, on ne savait plus préparer le garum, alors que des textes romains nous disaient donc qu'il existait. Et donc, ce sont des chercheurs de l'université de Cadix qui ont essayé de faire renaître le garum. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs cuisiniers déjà dans l'histoire qui ont fait ce rêve de reproduire le garum parce que il y a une saveur qui est une saveur intense, très particulière, et donc il y a eu vraiment une volonté de faire ça. Et donc ce sont deux professeurs archéologues, Dario Bernal et Enrique García Vargas. Mon accent espagnol est nettement
meilleur que
l'accent meilleur que mon accent cambodgien. Et donc ils se sont mobilisés. Après 2 ans de recherche, ils ont démontré que le garum n'était pas utilisé comme sauce. Donc, on prenait pas, voilà, on vous mettait pas un grand litre de garum, là, c'est quand même un truc, c'est assez costaud, quoi, le garum, hein, garum. Et donc,
bravo, tiens.
Ouais. Et donc, ils ont démontré qu'en fait, le garum était utilisé comme condiment pour relever le goût. Et donc, c'est pas par hasard que c'est des chercheurs de l'université de Cadix, parce que l'un des plus célèbres garums était justement celui de Cadix, grâce à ses bons poissons et à ses ateliers de salaison qui étaient particulièrement réputés. Alors, c'est à partir de l'analyse de restes archéologiques et de la lecture, évidemment, d'ouvrages anciens, que l'équipe a élaboré une recette pour faire du garum. Voilà. Et donc, alors il y a un chef, ensuite, ils sont allés chercher un chef qui s'appelle Mauro Barrero, et qui s'est chargé de proposer des applications gastronomiques dans son restaurant. Donc, on peut utiliser, on peut manger du garum dans le restaurant de Barrero. Il dit, le garum change de goût en fonction du poisson utilisé, pêché en hiver ou en été. Le liquide sert à assaisonner et faire mariner autant qu'à conserver. Tiens. Et donc, il a utilisé le garum comme accompagnement pour des sardines, des légumes grillés, de la viande, etc. Et donc, voilà, c'est un peu l'origine donc du garum. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est que vous savez qu'il y a eu une bataille pour le sel. Dans le passé, le sel était un ingrédient
très recherché, et très prisé.
Oui. Et donc le garum lui-même s'utilisait d'une manière qui est parfois comparable à celle dont on utilise le sel dans notre propre cuisine.
Voilà. Très bien. Eh bien, dites-moi. Et tout ça en partant du nyokmam. Vous rendez compte?
Nyokmam que vous pouvez mélanger. L'une des caractéristiques du nyokmam, qui est quand même, je rappelle, à base de saumure de poisson, c'est qu'il se marie très bien avec les goûts sucrés.
Ah oui.
Donc, dans les cuisines asiatiques, on l'utilise avec du citron, de l'eau, du sirop de canne, ou des racines de gingembre fraîches.
Voilà. Voilà. C'était la parenthèse gastronomie asiatique, signée Antoine Cyr. Bravo, Antoine.
Merci.
Écoutez, ça nous ouvre l'appétit, hein. Peut-être ça vous donnera envie d'aller vous faire un bon resto asiatique, hein, dans les jours qui viennent. C'est aussi ça, l'atelier
ou un resto romain, d'aller voyager dans le passé pour avec aller manger du garum.
Ben bravo. Et oui, parce qu'on le sait, tous les chemins maintenant...
Garum.
Et voilà.
Pas mal.
Bon, écoutez, là on va s'arrêter. Ce crash test, cet atelier est terminé. On se retrouvera bien sûr le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous suivre sur BFM Business chaque samedi. À très vite.